Bon, alors bonjour à tous. Comme nous l'avons souvent entendu dire, que nous savons que ce monde dans lequel nous vivons a un problème en ce qui concerne la vérité, bien entendu, nous voyons bien des choses et nous pouvons faire ainsi avec la connaissance que Dieu nous donne des parallèles au sujet de la vérité, au sujet du mensonge, au sujet des fausses doctrines qui ont été incluses dans la vraie doctrine du Christ. Vous vous souvenez certainement d'ailleurs que M. Armstrong disait souvent que le véritable évangile avait été caché au monde, on se souvient de cela, mais c'était parfois difficile à comprendre, et que la vérité de Dieu, donc les véritables doctrines bibliques, ont elles aussi été cachées, été changées, voire même falsifiées. Alors on peut se poser la question, comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible que des hommes s'approprient l'Évangile, s'approprient la vérité du Christ, pour en faire une contre-vérité, autrement dit, une fausse vérité. J'allais dire une fausse vérité. Oui, c'est faux. Alors, en nous appuyant sur certains écrits, avec des sources différentes, nous allons voir comment le mensonge est entré au fil des années, au fil des siècles même, dans la véritable Église que le Christ, lui, avait construite, bien sûr, ainsi que les apôtres. Alors, nous parlons souvent de la fausse Église. La fausse Église qui, aussi, au fil des siècles, s'est implantée, voire incrustée même, dans notre civilisation, au point d'en faire, comme nous le savons tous maintenant, et de devenir la religion officielle de l'État, et bien sûr, cette religion officielle était imposée directement au monde. Imposée. Le Christ n'impose rien. Le Christ veut que nous soyons avertis, que nous soyons informés de la vérité, et c'est cette vérité-là qui a été cachée, qui a été falsifiée. Alors, cette fausse Église était associée à l'État, et d'ailleurs l'est toujours. Alors, je voudrais, par le biais de certains documents, plusieurs livres, comme le livre de Pierre Valdo, la fausse Église, je ne me souviens plus le titre de cela, les deux Babylones, et bien d'autres documents aussi, à l'aide de documents provenant de l'historien M. Allais. Donc, en regroupant tout cela, bien sûr, il faut le regrouper, ça serait une étude très 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 longue, enfin, à l'aide de ces documents historiques, provenant de certains écrivains, et nous allons voir cela aujourd'hui avec vous. Alors, c'est pourquoi, ne possédant pas la connaissance pour faire la différence, les hommes sont dans la confusion quand ils parlent d'Église. Seulement, les faits historiques sont là. Heureusement, il y a des faits historiques auxquels nous pouvons nous reporter, plusieurs documents, plusieurs livres qui relatent les choses, comment elles se sont passées. Nous connaissons dans les environs d'Albi tout ce qui s'est passé avec cela, à Narbonne aussi. Donc, ce sont là des choses intéressantes qui se révèlent, et cela pour deux raisons. Je dirais la première, c'est qu'à travers ce qui s'est passé, nous pouvons entrevoir ce que sera demain. Nous pouvons entrevoir lorsque la Bible parle aussi de la bête. Merci. La deuxième chose, c'est que cela est une preuve supplémentaire, je dirais. Une preuve supplémentaire de la vérité, une preuve supplémentaire de la Bible, et devrait nous procurer, je dirais, des forces pour les jours à venir. Alors, sous nos yeux, nous voyons aujourd'hui se former le renouveau, si l'on peut dire, du futur empire romain, qui est une alliance, nous le savons, c'est une alliance d'un gouvernement civil avec un gouvernement religieux. Alors, nous savons que l'union de la bête qui est décrite dans l'Apocalypse formera une puissance incroyable. Je ne veux pas ici aujourd'hui entrer dans les détails, mais me reporter à des faits qui se sont passés il y a des siècles. Comme vous le savez, le passé justement nous donne des renseignements sur l'avenir. Cela a toujours été. C'est ce que nous allons voir. Alors nous avons appris, lorsque nous allions à l'école, lorsque nous allions en classe encore, que l'empereur Constantin, je pense que c'est des choses auxquelles on peut souvent facilement se souvenir, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme, converti entre guillemets. Alors laissez-moi lire à ce sujet quelques lignes à son sujet, et il sera facile à ce moment-là de voir la différence entre le vrai chrétien et, disons, le christianisme traditionnel. Ça, c'est un article du passé, du présent, mais qui révèle aussi l'avenir. C'est un article de M. Henri Allais, c'est un historien et un commentateur biblique. Au sujet de la fausse Église, il dit déjà, par son édit de tolérance, dans ce sujet, je le dirai, plusieurs de ces passages, ce ne sont pas de moi parce que je les lis, Constantin favorisa les chrétiens par tous les moyens, il les plaça au poste de responsabilité, il encouragea et aida la construction d'églises. Jusqu'à présent, on n'a pas l'impression que c'est mal. Il fit du christianisme la religion de sa cour en 325. Il exhorta tous ses sujets à devenir chrétiens. Finalement, Constantin transporta sa capitale à Byzance, l'appela Constantinople, et en fit une nouvelle Rome. Elle devint ainsi la capitale du nouvel empire chrétien. Empire chrétien. Alors après Constantin, bien entendu, il a eu ses successeurs, un autre empereur a continué d'imposer ce que Constantin avait déjà amorcé, cette fausse religion, cet évangile de contrefaçon commençait déjà à entrer dans le véritable christianisme. Donc, l'article que je lis là maintenant s'intitule « La paganisation de l'Église ». C'est suite donc à Constantin, c'est l'empereur Théodose en 378-398, fit du christianisme la religion officielle de l'Empire romain et rendit obligatoire d'appartenir à cette église. Ce fut la pire calamité. Des conversions forcées ne firent que remplir les églises de gens non convertis. Théodose n'en resta pas là. Il entreprit de supprimer toutes les autres religions par la force. À la suite de ses décrets, beaucoup de sang fut ainsi versé. Alors on peut se souvenir, je lis encore, que le Christ voulait que les vrais chrétiens puissent vaincre par des moyens spirituels et moraux. La conversion, avec le Christ évidemment, était volontaire, traduisant un changement sincère de vie et de cœur. Mais voici que l'esprit militaire de la Rome impériale avait malheureusement pénétré dans la vraie Église du Christ. Alors, petit à petit, elle avait changé de nature. Et elle entra dans sa grande apostasie. Il y a un triage qui se faisait. Elle devint une organisation politique calquée sur le modèle de l'esprit de Rome et non sur le Christ, plongeant ainsi la tête la première dans les abominations papales. Du deuxième au sixième siècle, la vraie Église fut déchirée par des controverses et perdit la vision de sa véritable mission. L'Église impériale du 4e et 5e siècle était devenue une institution complètement différente de la vraie Église qui était persécutée des trois premiers siècles. Le culte principal et sincère était ça au départ, évolua pour devenir des cérémonies élaborées, pompeuses, imposantes, qui n'avait rien à envier aux splendeurs éclatantes qui avaient été le propre des temples païens. Alors, dans tout cela, il ne faut pas oublier, bien sûr, que Satan est rusé. Il n'est pas nécessaire, je pense, de rajouter ici que la main de Satan, dès le départ, faisait en sorte que la vraie Église du Christ commence à disparaître, si l'on peut dire, n'est jamais disparu, bien sûr. Mais commence à, dans ses, dans ces prêtres, dans tout cela, à être tout à fait trouble, mélangé. Alors tout ceci, justement, s'est fait de façon tellement subtile que le monde ne faisait plus, après quelques mois, quelques années peut-être, le monde ne faisait plus la différence. C'est un peu comme aujourd'hui. Si on oublie les fêtes, si on oublie le sabbat, eh bien on commence à s'y habituer, on ne fera plus dans quelques années la différence. Et c'est déjà ce qui s'était passé. L'appellation était toujours l'Église. C'était toujours l'Église, et c'est toujours l'Église. Dans le monde, c'est l'Église, on sait ce que c'est. Et mais sans aucune distinction, par exemple, de formule, de précepte et de tout ce que constituait la vraie Église, sans se rendre compte, bien sûr, à ce moment-là, les gens ne s'en rendaient même plus compte que la fausse Église dominait déjà la vraie. Alors, un autre passage de l'écriture, là, de l'historien, au sujet de la mission originelle de la vraie Église. L'Église fut fondée par le Christ, non pas comme une institution autoritaire destinée à forcer le nom de l'enseignement de Christ sur le monde, mais pour rendre témoignage. Christ lui-même, et non l'Église, est la puissance qui transforme la vie humaine. Mais l'Église, il ne faut pas l'oublier ça non plus, l'Église vit le jour au sein de l'Empire romain. Et peu à peu se développa une forme de gouvernement calquée sur le monde politique dans lequel, bien sûr, elle existait, et devenant peu à peu une vaste organisation autocratique, dirigée par un seul homme. Je viens de lire le Christ sur le monde, mais devait rendre témoignage. Cela nous rappelle, bien sûr, Matthieu, chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça, c'était ce que le Christ voulait. Donc, regardons maintenant ce que le Christ avait dit à ses apôtres, à ses disciples, dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 7. Matthieu 23, 7. Ils aiment, vous comprendrez tout de suite de qui il s'agit bien sûr des scribes, des pharisiens, disons des prêtres de l'époque. Matthieu 23, verset 7. Ils aiment être salués dans les places publiques. Ça, c'est pas le Christ. Et à être appelés par les hommes rabbi, ce qui veut dire maître. Mais vous, dit le Christ à ses disciples, à ses apôtres, ne vous faites pas appeler maître ou rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Père en question ici, il ne s'agit pas de mon père, de ma mère, de mes frères de sang. Père ici, c'est un petit peu pater. Ou père, c'est un terme religieux. Père, comme on dit au sujet des prêtres. N'appelez personne votre père, car un seul est votre père, n'est-ce pas, celui qui est dans les cieux. Alors, je voudrais encore continuer cette lecture pour que ça soit plus étoffé. Au sujet du mot pape. Le mot pape, dans cet article, est dérivé du grec, c'est ce qu'on vient de lire, papa ou père, justement. Pour commencer, il fut appliqué à tous les évêques en Occident, et vers l'an 500, il commença à n'être plus appliqué qu'à l'évêque de Rome, et peu à peu, il prit le sens d'évêque universel. La liste des papes, présentée par l'Église catholique romaine, comprend les évêques de Rome depuis le 1er siècle. Mais pendant 500 ans, les évêques de Rome ne furent pas des papes. L'idée que l'évêque de Rome puisse avoir autorité sur l'Église tout entière ne grandit que très lentement et fut âprement contestée d'ailleurs à chaque étape et n'a jamais à aucun moment été universellement connue, tout au moins par les députés. Au sujet de la tradition de Pierre, la tradition catholique romaine selon laquelle Pierre fut le premier pape est une fiction pure et simple, c'est l'historien qui le dit. Il n'y a dans le Nouveau Testament aucune allusion ni preuve historique que Pierre ait été quelconque à Rome, un personnage quelconque, un évêque, n'a à aucun moment été évêque de Rome, à aucun moment. De plus, il n'a jamais revendiqué pour lui-même une autorité telle que celle revendiquée depuis par les papes. C'est-à-dire, il semble d'ailleurs que Pierre ait eu une sorte de prémonition divine que ses successeurs se seraient principalement souciés de dominer sur ceux qui leur sont issus en partage au lieu d'être les modèles du troupeau, comme il est écrit, on se souvient, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 2. J'aimerais quand même m'y référer. 1 Pierre chapitre 5. Voilà. 1 Pierre chapitre 5 verset 2. Où là, ici, Pierre dit, sous l'inspiration divine, il dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Autrement dit, les ministres de Dieu doivent être dévoués. « Non comme dominant sur ceux qui vous sont issus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » C'est donc une responsabilité supplémentaire, bien sûr, pour être un modèle, c'est difficile parfois. Enfin, avec Dieu, on devrait y arriver. Alors, comme cet article le mentionne, ici, le faux prophète, on le voit, s'approprie déjà le nom de père ou pater, comme on l'a vu. Il faut se souvenir que Dieu seul est notre père. Alors, prenons 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2. De Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 4. De Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Ah, je suis dans la première, moi. Alors, il s'agit ici, donc, de Thessaloniciens 2, 4, il s'agit de la fausse Église, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. On va voir que l'historien fait référence à de telles statues, à de tels événements. Un autre point, avant d'arriver à cela, C'est pris dans un livre qui s'intitule « 2000 ans de chrétienté ». Il s'agit de Pie IX. Pie IX décréta, c'est-à-dire, c'est une loi, il décréta l'Immaculée Conception de la divinité de Marie. On sait bien, d'après la Bible, que Marie, la mère du Christ, a eu d'autres enfants, mais que l'Église de l'État ne fait pas comme ça. Alors, à Constantinople, toutes les communautés reconnurent la valeur des sacrements, la sainteté de la Vierge, les dévotions aux saints, alors tous les saints. Le 15 décembre 1563, le Concile proclama la légitimité du culte de la Vierge. En 1854, le pape Pie IX proclama, lui, le dogme de l'Immaculée Conception, en marquant son autorité absolue. Mais vous savez, le fait qu'on puisse lire la Bible, c'est un peu de notre époque. Enfin, dans notre jeunesse, je me souviens qu'on entendait rarement, j'ai vécu chez une grand-mère qui était catholique, et ben, il n'y avait pas de Bible, je ne sais même pas si les gens savaient de quoi il s'agissait. C'était le missel, c'était je ne sais pas quoi, comment ils appellent ça là-bas, enfin. Donc, le Concile de Vatican I, en 1869-1870, déclara l'infaillibilité papale en matière religieuse, c'est-à-dire tout ce que le pape décidait, c'était comme ça. Le pape a donc le privilège d'interpréter la tradition et de définir lui-même un article de foi non explicitement contenu dans les Écritures. Léon XIII, je pensais peut-être des dates, parce que 1870, à 1903, vous voyez, ça se rapproche de chez nous, 1903, de notre époque, affirmait être le chef de tous les chefs et détenir sur la terre la place de Dieu Tout-Puissant. Ensuite, on passe à un autre pape, Pie XI, en 1922, réaffirma, en 1928, que l'Église catholique romaine était la seule Église de Christ et que la réunification de la chrétienté n'était possible qu'à la condition d'une soumission totale à Rome. En 1950, le pape Pie XII exerce ce pouvoir d'infaillibilité en proclamant le dogme de l'Assomption. C'est pourquoi maintenant, eh bien, il y a toutes ces fêtes qui sont imposées, bien sûr, depuis des années. Mais nous comprenons beaucoup mieux pourquoi le Christ affirme que Satan a séduit toute la terre, pourquoi il est le père du mensonge, et pourquoi les nations, eh bien évidemment, à cause de tout ça, sont dans l'erreur, dans le mensonge. Et malheureusement, les gens ne veulent pas admettre la vérité. Pourquoi? Parce que le mensonge est profondément enraciné dans leur esprit. Donc, ils ne pensent pas que c'est un mensonge, évidemment, mais ils ne peuvent pas comprendre la vérité à cause du mensonge qu'on leur a inculqué. Et cette fausse doctrine plaît. Cette fausse doctrine, c'est quelque chose de plaisant à ceux qui la pratiquent. C'est vraiment la séduction. Quand la Bible parle de ne nous laissons pas séduire, Satan est un grand menteur, est un grand séducteur. Il ne faut pas l'oublier. Quelque chose qui apparaît attirant aux yeux, il faut vraiment voir notre Bible, il faut comparer. Ça, c'est de la sentimentalité, c'est incroyable. Ensuite, je reviens avec toujours M. Allé ici, au sujet du pouvoir papal qui avait été renforcé, et ça on l'a appris à l'école aussi, par Charlemagne. Un Léon III, en 795, en contrepartie de la reconnaissance de Charlemagne, en 774, du pouvoir temporel du pape sur les états pontificaux, conféra donc à Charlemagne, qui avait été ordonné empereur, si je me souviens bien, à l'an 800, en ordonnant Charlemagne empereur, le titre d'empereur, réunissant ainsi les royaumes francs, c'est-à-dire la France, et romains, en un seul empire romain. Charlemagne, 742-814, qui était roi des Francs, et on se souvient que Charlemagne était le petit-fils de Charles Martel, et on se souvient aussi, si je veux aller plus loin, que Charles Martel arrêta les Arabes à Poitiers en 732. Donc ça, c'est l'histoire qu'on a apprise, donc on peut se souvenir de ces choses-là. Alors, on voit que Charlemagne, lui, avait sauvé l'Europe des musulmans, il le dit dans son texte, fut l'un des plus grands chefs de tous les temps. Il régna 46 ans, mena de nombreuses guerres et conquit de vastes territoires. Son royaume comprenait l'actuelle Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, la Hongrie et certaines parties de l'Espagne et de l'Italie. Il aida, on a vu un film aussi à ce sujet, il aida le pape qui l'aida à son tour. Il fut l'un des éléments les plus influents pour amener la papauté au rang de puissance mondiale. Alors, je trouve que ça éclaire beaucoup de choses au sujet des choses qui pourront arriver bientôt. Peu après sa mort, le traité de Verdun, en 843, son empire fut divisé en ce qui allait plus tard devenir l'Allemagne, la France et l'Italie, et désormais, pendant des siècles, il allait y avoir une lutte incessante pour la suprématie entre les papes et les rois français et allemands. Alors, établi par Charlemagne, je lis encore, excusez-moi, et Léon III, il était en quelque sorte le rétablissement de l'Empire romain d'Occident, avec des rois allemands portant le nom de César, conférés par les papes. Il prétendait être une continuation du premier empire romain sous la domination conjointe des papes et des empereurs, ces derniers s'occupant des questions temporelles, alors que les papes faisaient les questions spirituelles. Mais dans la mesure où l'Église, devenue une institution étatique, la juridiction n'était pas toujours facile à définir. Cela provoquait une longue suite de luttes très âpres entre les empereurs et les papes. Alors, il est assez courant lorsque on lit ça, lorsqu'on en entend parler, il est assez courant dans notre civilisation, les gens disent « Oh, mais ça, c'est l'histoire, c'est du passé. » Oui, c'est du passé. Mais il nous faut bien comprendre que le passé nous éclaire beaucoup sur l'avenir, même sur le présent d'ailleurs, mais aussi sur l'avenir. Et les gens disent « C'est de l'histoire, c'est du passé », sans bien comprendre, franchement, sans bien comprendre le sens profond que c'est Satan qui a imposé son Église pour essayer de détruire l'Église du Christ. Alors on en arrive à des situations confuses comme celles que nous voyons aujourd'hui dans le monde, bien sûr. Donc c'est pourquoi l'histoire nous montre qu'à certaines périodes, cette puissance fut très, je peux même dire, très importante. Lorsqu'on pense à l'Inquisition, à toutes ces choses-là qui se faisaient par le Christ, en croyant rendre un culte à Christ, cette puissance fut très importante, elle le sera de nouveau. Elle le sera de nouveau. Qu'en est-il de l'apogée des papes? Un pape qui fut le plus puissant, d'après ce qu'on lit ici, c'est Innocent III. Là, il n'était pas si innocent que ça, mais enfin, Innocent III fut le plus puissant de tous les papes. Il s'arrogea les titres de vicaire du Christ, ce que nous avons lu tout à l'heure, de prendre la place du Christ, vicaire de Dieu, souverain suprême de l'Église et du monde. Innocent III. Il revendiqua le droit de déposer les rois et les princes et proclama que toutes choses sur la terre, dans le ciel et dans l'enfer, sont soumises au vicaire du Christ, c'est-à-dire à lui-même, Innocent III. J'ai regardé la définition du dictionnaire au sujet de vicaire. La définition de ce dictionnaire, vicaire, c'est celui qui remplace, c'est le remplaçant. Autrement dit, c'est le remplaçant du Christ, c'est le remplaçant de Dieu, vicaire. On peut se rappeler ce qu'on a lu tout à l'heure, de Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, se proclamant lui-même Dieu. Il est le vicaire, le remplaçant. Comme si Dieu avait besoin d'un remplaçant. Enfin. Je reviens à Innocent III ici. Il amena l'Église au pouvoir suprême de l'État. Les rois d'Allemagne, de France, d'Angleterre et presque tous les monarques d'Europe se plièrent à sa volonté. Oui, quand on dit les rois, il faut bien comprendre que en France, on avait Henri IV, on avait beaucoup de rois avant d'avoir la République. Toujours Innocent III parvint même à assujettir l'Empire byzantin, mais dans l'histoire, un seul homme n'a exercé autant de pouvoir. Il ordonna deux croisades et décréta, un nom bizarre là, la transsubstantiation. La transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de la substance du pain et du vin, autrement dit, au sujet de l'Eucharistie, au sujet de la Pâque. Il confirma la confession, on doit se confesser qu'à Dieu, mais lui, il confirme la confession au prêtre, et déclara que le successeur de Pierre ne peut jamais et d'aucune manière s'éloigner de la foi catholique. Jetant ainsi les bases de l'infaillibilité papale, il interdit la lecture de la Bible, ordonna l'extermination des hérétiques, le massacre des albigeois, et institua l'Inquisition. Il n'y eut plus de sang répandu pendant son règne et celui de ses successeurs immédiats, qu'à tout autre moment de l'histoire de l'Église, en dehors de l'effort de la papauté pour écraser la réforme au XVIe et XVIIe siècle. On pourrait penser, à ce moment-là, que c'était Néron la bête, revenu à la vie au nom de l'agneau. C'est ce qu'indique Apocalypse chapitre 13. On va se reporter déjà à Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Bon, il s'agit ici du faux prophète, de la séduction religieuse. Apocalypse 6, verset 2. « Viens, je regardais et voici parut un cheval blanc. » On sait ce que symbolise le cheval blanc. « Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Au chapitre 13 d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13 et le verset 11. Puis, il s'agit dans Apocalypse, vous vous souvenez, petite parenthèse là, dans Apocalypse, au verset 13, il y a, pour ainsi dire, deux gouvernements. Chapitre 13, verset 1, il s'agit du gouvernement, là, d'un des gouvernements, et puis le gouvernement religieux, au verset 11, autrement dit, l'agneau ici. L'agneau. Alors, Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle n'était que semblable, mais elle parlait comme Satan. Alors, on me dira, il y a une grande partie de cette prophétie, bien sûr, qui s'est accomplie, mais il y a un double accomplissement que nous verrons dans quelques années. Alors, nous savons très bien par l'histoire, par tout ce qui passait dans nos régions en France et ailleurs, que ce fut une époque de persécution tout à fait terrible de la part de l'Église, et les persécuteurs, là encore, se disaient chrétiens et pensaient justement rendre un culte à Dieu, à Christ. Bon, je reviens à cet article de l'historien, M. Allais, le pouvoir des papes. Cette inquisition qui faisait verser du sang, l'inquisition était appelée le Saint-Office. Le Saint-Office. Ce Saint-Office fut institué par Innocent III, comme on l'a vu, et perfectionné par son successeur, Grégoire IX. Il s'agissait d'un tribunal de l'Église pour la détection et la punition des hérétiques, ceux qui ne voulaient pas obéir. Et ils exigeaient que chacun informe contre les hérétiques. C'était des SS, pour ainsi dire. Toute personne soupçonnée était susceptible d'être torturée sans connaître le nom de son accusateur. La procédure était évidemment secrète. L'inquisiteur prononçait la sentence et livrait la victime aux autorités civiles pour être emprisonnée ou livrée ou emprisonné à vie ou brûlé. Les biens de la victime étaient ensuite confisqués et répartis entre l'Église et l'État. Pendant la période qui immédiatement suivit le pape Innocent III, l'Inquisition fit son travail le plus meurtrier contre les albigeois, mais fit aussi d'innombrables victimes en Espagne, en Italie, en Allemagne ainsi qu'aux Pays-Bas. Un peu plus tard, l'Inquisition fut le principal instrument de la papauté dans son effort pour écraser la réforme. Pendant les 30 années, entre 1540 et 1570, pas moins de 9 millions de protestants furent mis à mort dans la guerre d'extermination que le pape mena contre les Vaudois. Pensez à ces moines et à ces prêtres vêtus de leur habit sacré, entre guillemets, qui dirigeait avec une cruauté et une brutalité inhumaine la torture et l'envoi au bûcher d'hommes et de femmes absolument innocents, et cela au nom du Christ, par ordre express du vicaire du Christ. On verra dans Jean 16, 2 tout à l'heure, une note personnelle de l'historien là. L'Inquisition fut l'infamie la plus diabolique de toute l'histoire de l'humanité. Elle fut conçue par les papes et utilisée par eux pendant 500 ans. Afin de maintenir leur pouvoir. Aucun des papes saints, entre guillemets, et infaillibles, ne s'est depuis repenti de cette ignoble institution. Comme on dit, c'était une dictature. Poursuite de la guerre, donc, il y a la guerre aussi. Il y a ici trois papes, Honorius III, Grégoire IX, 1904, autorisa facilement l'officiellement l'utilisation de la torture pour extraire les confessions d'hérétiques présumées. Sous ces trois papes, l'empereur Frédéric II d'Allemagne engagea son empire dans la dernière grande lutte avec la papauté. Après des guerres répétées, la papauté va en sortir souveraine. Il partit avec son arc pour vaincre. Dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, à partir du verset 1. Jean 16, verset 1 jusqu'à 4. Alors là, le Christ dit, ça fait partie de tout ce qu'on vient de lire. Le Christ dit, enfin Jean, sous l'inspiration divine, il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il dit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient, où quiconque vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Au verset 3, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Donc, même à l'époque du Christ, des apôtres, le Christ avait déjà cette vision des choses qui allaient arriver. Encore quelques lectures ici. Les prétentions de la papauté, donc malgré le caractère peu en recommandé de la plupart des papes, malgré leur méthode et l'histoire sanguinaire et séculière de la papauté, ces saints pères, entre guillemets toujours, prétendèrent être les vicaires de Christ infaillibles, occupant sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant et enseignent plutôt que il fallait leur obéir, que pour avoir le salut, il fallait leur obéir. Innocent III interdit au peuple la lecture de la Bible. Grégoire IX, interdit aux laïcs de posséder la Bible et supprima les traductions qui avaient été faites. On mit au feu les traductions faites par les Albigeois et les Vaudois et on envoyait au bûcher les personnes qui étaient trouvées en possession de Bibles. Paul IV interdit la possession des traductions. Les Jésuites persuadèrent Clément XI de condamner la lecture de la Bible par les laïcs. Pour les chaque pape, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX, condamnèrent toutes les sociétés bibliques qui faisaient des traductions. Ce n'est que ces toutes dernières années que la Bible commence à être connue dans les pays catholiques. La papauté et l'État. Hildebrand se proclama souverain des rois et des princes. Innocent III, chacun se proclame un petit peu quelque chose. Innocent III se proclama souverain suprême du monde. Léon XIII se proclama chef de tous les souverains. Lors du couronnement des papes, la couronne était placée sur leur tête avec ces mots. Tu es le père des princes et des rois, maître de la terre et vicaire du Christ. Autre note de l'historien, il dit certaines choses que nous avons relatées dans nos livres paraissent incroyables. Pourtant, il semble inconvenable que ces hommes puissent s'emparer de la religion de Christ pour en faire une machine politique sans scrupules qui leur permettrait de parvenir au pouvoir mondial. Cependant, tout ce qui a été dit dans les pages qui précèdent peut être vérifié en se référant à tous les ouvrages présentant une histoire détaillée de l'Église. C'est pourquoi c'est le travail de Satan. Qu'en est-il des Vaudois? On a entendu parler. Bon, on voit le travail de Satan depuis le début des siècles, et il faut toujours essayer de percevoir encore aujourd'hui. Je pense que c'est quand même avec la connaissance de Dieu que c'est quand même facile à reconnaître. Les Levaudois étaient un mouvement similaire, mais non identique aux Albigeois. Il se développa aussi dans le sud de la France, à la suite de la prédication de Pierre Devaux, dit aussi Pierre Valdo, j'ai d'ailleurs le livre encore, riche commerçant de Lyon, qui en 1176 abandonna tous ses biens aux pauvres et se lança dans la prédication itinérante. Il s'opposa à l'usurpation et à la débauche du clergé, niant à celui-ci le droit exclusif d'enseigner les Écritures. Il rejeta la messe, la prière pour les morts et le purgatoire et beaucoup d'autres choses, enseignant que la Bible était la seule règle de foi et de vie. Sa prédication créa parmi le peuple à ce moment-là un grand désir de lire la Bible. Ils furent, tous ceux qui étaient avec lui, peu à peu réprimés par l'Inquisition, se retranchant pour finir dans quelques vallées alpines de l'ouest de Turin. Alors, comme les premiers chrétiens, nous respectons le sabbat n'était pas dans les règles de l'époque, ils ne respectaient pas le sabbat non plus, mais ce jour de repos que la papauté a reporté au dimanche, mais revenons un peu à l'empereur Constantin, parce que lui aussi en est l'auteur. Nous savons qu'en 321, Constantin a promu le dimanche au rang de jour de repos officiel de l'Empire romain. Le premier jour de la semaine remplaça donc le sabbat, qui était au premier siècle un jour de grâce. Au deuxième concile de Nicée, le pape Grégoire défend la doctrine orthodoxe de la Trinité. Au Saint-Empire est conféré le même rang qu'au Père et au Fils, autrement au Saint-Esprit est conféré le même rang qu'au Père et au Christ, c'est-à-dire c'est la troisième personne dont on a parlé, qu'on aura appris dans la religion que vous connaissez. Au XIIe et XIIIe siècle, l'Église fixe sa doctrine sur les sept sacrements et s'efforce d'instaurer une discipline commune et obligatoire à tous les chrétiens. Désormais, on baptise les enfants dans les jours qui suivent leur naissance afin de les laver du péché. Le baptême par immersion est encore une fois remplacé par le versement d'un peu d'eau sur la tête, appelé encore baptême par infusion. Alors tout cela est intéressant, mais c'est aussi une solide mise en garde à ne pas se laisser détourner par qui que ce soit. C'est une mise en garde à ne pas se laisser séduire non plus, parce que la coutume de la communion tous les dimanches, nous l'avons vu, a remplacé la vraie Pâque aussi. Hein. La vraie Pâque doit être prise le 14e jour du premier mois. C'est le mois de Nisan. Alors, je dis ça parce que dans le texte qui suit, ceci en parle. Il s'agit de Polycarpe. Il fut le premier apôtre de Jean. Ça, ce sont des chrétiens, si je puis dire. Hein. Polycarpe fut disciple de Jean et évêque de Smyrne pendant la persécution ordonnée par l'empereur Antonin. Il fut arrêté et conduit devant le gouverneur. Quand on lui offrit la liberté, s'il maudissait le Christ, il répliqua. Pendant 80 ans, j'ai servi le Christ et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je alors le maudire, lui, mon Seigneur et mon Sauveur? On le brûla vif, parce qu'il n'a pas voulu renier le Christ. Ignace, en 67, il fut un disciple de Jean et évêque d'Antioche. Papas, vers 70 et 155, un autre disciple de l'apôtre Jean. Il fut évêque d'Hierapolis, à quelques 160 km d'Éphèse. Il se peut qu'il ait connu Philippe, puisque la tradition dit que ce dernier mourut à Hierapolis. Il mourut le martyr à Pergame, et à peu près à la même époque que Polycarpe. Polycarpe, Ignace et Papias forment le maillon reliant l'ère apostolique au siècle à venir. sont des gens qui avaient fait face. Irénée, en 130, 220, naît à Smyrne. Disciple de Polycarpe et de Papias, voyagea beaucoup et devint évêque de Lyon, en Gaule. Il est surtout connu pour ses livres contre les gnostiques. Il mourut martyr. Voici ce qu'il écrit dans ses souvenirs de Polycarpe. Je me souviens bien, du lieu où Polycarpe s'asseyait et parlait. Je me souviens des discours qu'il faisait au peuple et comment il décrivait ses relations avec l'apôtre Jean et bien d'autres apôtres qui avaient été avec le Seigneur, comment il récitait les paroles du Christ et les miracles qu'il avait accomplis. Comment il avait reçu son enseignement de ceux qui avaient été témoins oculaires de la parole de vie et qui s'accordaient en tout point avec les Écritures. Anicée, évêque de Rome, essaya d'influencer Polycarpe, qui lui était évêque de Smyrne, pour qu'il change la date de l'observance de la Pâque, mais Polycarpe refusa de céder. Victor I menaça d'excommunier les vraies églises d'Orient parce qu'elles célébraient la Pâque le 14 Nisan. Polycarpe, évêque d'Éphèse, répliqua qu'il n'avait pas peur des menaces de Victor et il affirma son autorité absolument indépendante. Donc, on peut voir tout ce stratagème des fois qui nous fait sortir les yeux de la tête. Non, mais dans Jean, chapitre 13, verset 1, nous voyons que le Christ prend la Pâque, nous le savons, avec ses disciples avant d'être arrêté. Et dans Jean 19, verset 13 et 14, Pilate livre Jésus aux Juifs, et nous lisons que c'était la préparation de la Pâque. Je ne me reporte pas à Jean 18, 28, qui dit que ceux qui conduisaient le Christ n'ont pas entré dans le prétoire pour ne pas se souiller parce qu'ils allaient prendre la Pâque le soir même, alors que le Christ l'avait pris la veille. Donc, un rappel de tous ces mensonges nous aide quand même à mieux prouver la vérité. Ça renforce, si vous voulez, dans les convictions que la vérité du Christ a été bafouée, a été mensonge, ça c'est devenu un mensonge aux yeux des gens, pas la vérité du Christ. Elle a été transformée en mensonge. Donc, et surtout, il nous faut prouver la vérité, bien sûr, et rester ferme, parce que n'oublions pas que tout ce qui s'est passé risque, bien sûr, de nouveau se reproduire. Peuvent reporter, avant de terminer, à Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Apocalypse 17, à partir du verset 6, là oui. Dit, et je vis cette femme, ivre du sang des saints, c'est-à-dire, cette femme, vous savez que dans l'Église, l'Apocalypse, cette femme symbolise l'Église, mais l'Église, il y a la fausse et la vraie, bien sûr, et je vis cette femme, ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. La deuxième partie du verset 8. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, mais qu'elle réapparaîtra. Le début du verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Alors, dans Jean, chapitre 13, verset 1, nous voyons que le Christ a pris la Pâque, comme on vient de le lire, je ne vais pas s'y référer. Alors, on regarde tout cela. Lorsqu'on réfléchit à tout ce qui s'est passé, n'oublions pas la promesse du Christ. La promesse du Christ dans Matthieu chapitre 28, je pense qu'on connaît ça par cœur, on va s'y référer quand même, Matthieu chapitre 28 et les Verset 20, c'est le dernier passage de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Et le verset 20, le Christ dit, enseignez-leur, à ses disciples, à ses apôtres, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ a toujours été avec les vrais chrétiens et leur a donné la force, la fermeté, la force dans les épreuves, ils en avaient bien besoin. Alors nous devons fonder nos croyances sur des bases solides, et la base solide c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est pourquoi il nous faut étudier, il nous faut lire, il nous faut rester en contact avec Dieu par la prière aussi, étudier dans, avec ces bases afin de bien trouver la vérité biblique. Et de ce fait, se protéger du mensonge pour rester fidèle à Christ, pour rester fidèle à l'Église de Dieu. Alors faisons comme les gens de Béret. Vous vous souvenez, dans Actes 17, 11, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Bon, ça, j'entends quelque chose, alors je regarde ce que le Christ a dit. C'est la façon de faire. Dans 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et abstenez-vous de toute espèce de mal.